Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de À vos trousses, nous vous proposons une émission réalisée par les élèves de 4e 8 du collège Marcel Aymard de Millau. Ils et elles ont participé à des ateliers de sensibilisation et d'initiation à la radio sur le thème de la haine en ligne dans le cadre du projet « Mais pourquoi tant de haine ?» mené dans deux classes du collège par Radio Larzac et soutenu par la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Bonjour, nous sommes à la classe de 4e 8 du collège Marcel Aymard de Millau. Nous allons vous présenter un projet contre le cyberharcèlement sur lequel nous avons travaillé ensemble. Dans cette émission, vous entendrez des élèves qui ont réalisé des interviews, un débat mouvant, des élèves qui ont préparé une fiction sonore, des chroniques et des micro-trottoirs.
Les slogans que vous allez entendre ont été inventés par Mayen, Ayoub, Noah, Timéo et Maël G. L'émission est animée par Lily, Maël E, Lilou, Fabrice, Nolan et Joachim.
Les réseaux sociaux, c'est bien mais pas trop.
Pour commencer, nous allons écouter le débat que nous avons fait en classe. C'est un débat mouvant, il s'agit de se déplacer d'un côté ou de l'autre, selon son avis.
C'est plus facile d'exprimer ses pensées les plus sombres et méchantes en ligne, plutôt que dans l'espace public.
Vous êtes tous placés sur le fait d'être d'accord, à part... Comment tu t'appelles ?
Melinda.
Est-ce que juste il y en a un ou une, ou peu de personnes ici qui peuvent me dire pourquoi ?
Oui. C'est quoi ton prénom ?
Cléa. Mais parce qu'on est caché derrière un écran et que du coup, on se sent plus fort derrière un écran qu'en face.
Melinda, alors dis-nous, pourquoi t'es ici ?
Quand on fait quelque chose en ligne, ça garde une trace. Du coup, bon, ça, y a toujours des traces. Et du coup, ça fait qu'on peut toujours le ressortir à un autre moment. Dès que c'est dans la vraie vie, il n'y a vraiment aucune preuve. Donc en fait, ça dépend des personnes. Du coup, c'est nuancé. C'est pour ça que...
D'un côté, c'est plus facile, mais de l'autre côté, ça peut se retourner contre nous.
Oui, parce que bah, y a des traces. Tandis que dans la vraie vie, bah, y a personne qui va être avec un micro en train de vous enregistrer pour savoir ce que vous dites. C'est, du coup, bah, c'est plus facile en ligne. Enfin, c'est plus facile, mais en même temps, c'est plus compliqué parce qu'il y a des traces. Et on peut plus facilement être trouvé et avec les adresses IP, etc.
Ok, d'accord. Oui, donc alors que quand quelqu'un nous insulte dans la rue, c'est tout aussi difficile de remonter à la personne.
Voilà, tandis que techniquement, si on est insulté par exemple au message privé, etc., on peut juste aller voir des autorités, etc. Et en fait, on remonte facilement à l'adresse IP. Bon, si la personne a un VPN, mais même encore là, on peut trouver. Et, du coup, bah, tandis que si c'est dans la rue, bah, y a personne qui réagit.
Est-ce que vous avez des réactions ? Vous voulez répondre un peu à ce qu'a dit Melinda ? Tu es d'accord ?
Oui, je suis d'accord. Parce qu'en soi, elle a raison. C'est plus logique d'envoyer un message en privé parce que t'entends pas sa voix, mais il y aura plus facilement des preuves que si tu l'envoies par parole, s'il n'y a pas de témoin. C'est sa parole contre la tienne, donc c'est soit lui, soit toi qui as raison, quoi. Mais c'est compliqué à savoir.
Utiliser des pseudonymes sur les réseaux permet de protéger nos données personnelles en ligne.
Ok, donc là, il y en a plusieurs à être au milieu. Peut-être on va commencer par ceux qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y en a une qui veut me dire pourquoi ?
Bah, ça protège, ça nous protège de ne pas donner notre nom et notre prénom. Mais on peut toujours... Notre compte peut toujours avoir eu un problème ou se faire pirater, et du coup, nos données, elles partent.
Ok, quand on est un pseudo ou pas ?
Oui.
Ok. D'autres personnes ?
Quand on a un pseudo, ça sert pas que protéger nos données personnelles, ça peut être drôle ou par d'autres personnes envoyer de la haine sur Internet.
Je suis d'accord parce qu'au moins, on connaît pas notre identité.
Et alors, pour les personnes qui sont au milieu ?
Ben en fait, ça dépend le pseudo que tu mets. Enfin, si tu mets ton prénom ou des mots qui te... ton prénom, ton nom, ton âge, ton département, ouais, des trucs comme ça. Ou si tu mets quelque chose de complètement aléatoire, moi, je pense que ça va défendre... Enfin, ça dépend, quoi.
Et peut-être on peut modifier un peu la question. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien d'utiliser un pseudo ?
Mais ça dépend en soi, parce que si tu utilises un pseudo pour parce que tu sais que personne ne va te reconnaître, donc t'es protégé et tu peux faire ce que tu veux, tu peux insulter comme rien faire. Si t'insultes, c'est pas ouf, mais après, si tu fais rien, juste t'as tes amis et voilà, c'est tout, c'est bien. Mais il vaut mieux utiliser son prénom ou des trucs comme ça, quoi, parce qu'on sait jamais si on tombe sur des fous.
Toi, t'avais dit quelque chose, non ?
Que c'était bien parce que comme ça, on peut pas te reconnaître. Ouais.
Et pourquoi on aurait besoin qu'on te reconnaisse pas ?
Pour pas qu'on insulte, qu'on critique, qu'on soit qu'entre potes ou amis.
Il est plus grave d'écrire « Si tu es gay, fais-toi soigner » sur un forum internet que de le prononcer lors d'une manifestation dans la rue.
Ils sont placés ici, donc vous pensez que c'est moins grave de l'écrire sur internet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça ?
Si tu l'écris dans un forum, par exemple, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont le voir. Alors que là, si tu l'écris dans une manifestation, tout le monde va l'entendre.
Sur internet, quand tu écris un message, il peut vite être oublié. Alors que pendant les manifestations, il y a ceux qui filment, qui ne peuvent pas être d'accord. Du coup, ils envoient des insultes sur internet, ils essaient de te retrouver.
Pour les personnes qui sont d'accord, donc qui pensent que c'est plus grave de l'écrire sur internet.
C'est plus grave de l'écrire sur internet parce que tout le monde peut y aller et ça fait vraiment beaucoup de gens qui peuvent le voir, alors que dans la manifestation, il n'y a que les gens présents, ils peuvent le raconter, mais ça sera moins fort que si tu le vois toi-même dans le forum ou je sais pas.
Et pour les personnes un peu au milieu, qui pensent que c'est pareil ou que ça dépend ?
Moi, je pense que dans les deux cas, c'est grave et qu'il faut pas faire. Voilà.
Dans la rue, ça peut être filmé, ça peut être relayé sur Internet. Et dans les forums, ça peut fuiter et même les personnes qui sont dans les forums vont le voir. Donc ça revient au même.
Contre les discours de haine, la seule solution, c'est d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs.
Ça sert à rien d'interdire aux mineurs vu qu'il y a aussi des adultes qui font de la haine en ligne.
Mais en fait, interdire les réseaux sociaux aux mineurs, ce serait illogique et radical. Parce que c'est comme si pour lutter contre le harcèlement scolaire, on interdisait l'école, ce serait illogique. Du coup, c'est radical et en plus ça empêche la liberté d'expression parce que les jeunes aussi ont besoin de s'exprimer.
Pour les personnes qui sont un peu au milieu, qui hésitent, est-ce que tu veux me dire pourquoi ?
Oui, parce que c'est pas bien, il peut y avoir du harcèlement, mais... Aussi, si t'es triste, tu peux te consoler sur les réseaux.
Sur les réseaux, il y a des personnes malveillantes qui peuvent essayer de gagner la confiance des mineurs en produisant du contenu pour les mineurs.
Moi, je pense que oui, parce qu'il ne faudrait pas interdire, mais qu'il y ait plus un gros pare-feu. Sur les réseaux sociaux, ou alors autoriser vers 16 ans, parce que on est plus mature, quoi.
En soi, je suis mitigée parce que si t'as des réseaux jeunes de notre âge à peu près, ou 12 ans, et que t'as les parents derrière, en soi, t'as pas de peur à avoir. Enfin, moi, je sais que mes parents ils surveillent, donc j'ai pas peur, quoi. Je m'en fiche. Mais après, si t'as pas les parents, là, c'est sûr que si t'es trop jeune, faut pas installer. Moi, je connais des gens qui, à 9 ans, ils avaient déjà TikTok, Instagram, Snap. Moi, j'avais pas le droit. Hein. Et c'était très bien comme ça. Hein.
Il ne faut pas s'abonner aux gens en train d'harceler. Maintenant, nous allons vous présenter des micro-trottoirs que nous avons réalisés dans la cour du collège. Nous avons interrogé des élèves de 5e et un ADE du collège. Nous avons décidé des questions en classe tous ensemble.
Ensuite, vous entendrez une chronique sur l'émission Dopamine, réalisée par Emma, Naya, Cynthia et Shainez, concernant le réseau social Instagram.
Es-tu inscrit sur un réseau social ?
Oui, YouTube, TikTok, WhatsApp.
Snap, Insta, TikTok.
Ouais, sur Snap, TikTok.
Pas pour l'instant, mais plus tard peut-être.
Oui, 3.
Quel réseau social tu utilises le plus ?
Snap.
TikTok.
TikTok.
Moi c'est TikTok et Snap.
TikTok. Sur WhatsApp, je discute. Une fois, j'ai créé une chaîne sur WhatsApp.
TikTok et Snap.
Instagram.
Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux ?
Non, je passe pas de temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas les réseaux sociaux sur mon téléphone.
Plus de 1 heure à 2 heures par temps.
8 heures, 10 heures.
À quoi servent les réseaux sociaux ?
À discuter, échanger.
À discuter avec mes amis.
À suivre les gens, à... quand tu t'ennuies, tu vas sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, tu regardes les vidéos.
Ça sert à partager des vidéos, à partager des choses, à parler avec ses amis, et voilà.
Ça sert à discuter, à se divertir, mais aussi ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir des gens qui nous harcèlent en réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est fait normalement pour garder un lien avec des personnes qui sont assez éloignées.
Qu'est-ce que le cyberharcèlement ?
Bah, le cyberharcèlement, c'est quand t'as des insultes ou des préjugés ou des critiques sur les réseaux sociaux.
C'est quand des gens harcèlent quelqu'un sur les réseaux sociaux, donc des insultes répétées et voilà.
C'est le harcèlement sur Internet.
Alors le cyberharcèlement, c'est quand des personnes s'amusent à critiquer d'autres personnes en restant cachées derrière les écrans.
Qu'est-ce que tu penses du cyberharcèlement ?
Que ce n'est pas très bien et qu'il faut arrêter.
Ce n'est pas bien.
Je pense que le cyberharcèlement, c'est mauvais parce que des personnes se sentent rabaissées et tout alors qu'ils n'ont rien demandé.
Tournez la page à ceux qui font des ravages.
Nous sommes avec Emma, Naya, Cynthia et Chahinez qui vont nous parler de la dopamine sur Instagram.
De nos jours, les jeunes de 12 à 17 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux. Instagram est le deuxième réseau social le plus utilisé par les ados après TikTok.
Comme beaucoup d'applications ou réseaux, Instagram est conçu pour te rendre accro. En effet, notre cerveau crée une molécule, la dopamine, qui est responsable du plaisir, de la motivation et surtout de l'addiction.
Instagram est un réseau social connu de tous, qui permet de partager des vidéos et des photos. De notre quotidien, par exemple, il te fait te comparer. Son objectif, c'est que tu y passes le plus de temps parce que ça donne de l'argent aux personnes qui ont créé Instagram et aux publicitaires.
Notre cerveau veut constamment reproduire les photos, vidéos vues, ce qui offre encore plus de contenu à Instagram. Maintenant, nous allons vous donner quelques conseils.
Comment éviter d'avoir des problèmes sur cette application ? 1. Il ne faut surtout pas publier toute sa vie personnelle. 2. Car on peut être harcelé à cause de tes vidéos que tu as fait.
Donc aussi, il faut éviter de mettre sa tête de profil car on peut l'utiliser.
Tu dois surtout mettre ton compte en protection, ne pas mettre tes mots de passe en public en sachant que tu peux te faire pirater. Alors aussi, tu dois surtout éviter ou même refuser les abonnements si tu acceptes un abonné et l'abonné est très violent ou qu'il se trouve et qu'il est bizarre.
Sur l'appli Instagram, on peut discuter avec ses amis. Tu peux regarder des vidéos qui t'intéressent.
Merci pour ces informations. À présent, nous allons écouter une scénette. C'est une histoire inventée par Cléa, Eliane, Laura, Ayoub, Yanis, Maë et Raphaël qui parlent de cyberharcèlement.
Un jour, Ayoub va en cours au collège et tombe dans la boue.
Oh non, je me suis sali partout.
4 élèves voient Ayoub tomber dans la boue.
Oh, il a mangé de la merde ou quoi ?
Depuis ce jour, ce groupe d'élèves continue de se moquer de lui et de le harceler par message.
Vous avez vu ce mangeur de merde ?
Oh oui, ça lui va bien la merde à lui.
Faudrait continuer à lui donner de la merde.
J'ai tout filmé, les gars, je vais mettre ça en story.
Ah ouais, avec ça, on va faire rire tout le collège.
La story fait le tour du collège en une après-midi. Jusqu'à que ce soit Raphaël qui la reçoit.
J'aimerais pas être à sa place, c'est humiliant. Je vais en parler à Eliane. Tu penses pas qu'on devrait en parler à ce PE ?
Oui, en vrai, c'est un peu abusé. Demain, on va la voir.
Bonjour madame, il y a Ayoub qui se fait harceler, vous pouvez l'aider ?
Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper.
Mieux vaut liker qu'insulter.
Arrêtez le harcèlement avec le 3018, ça va plus vite.
Restez avec nous, on se retrouve après une pause musicale. On vous propose d'écouter la tune de Angel.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi, je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Larzec. Nous continuons notre émission qui traite de la haine en ligne.
Contre le cyberharcèlement, on peut réagir, on peut se protéger, mais aussi se protéger les uns des autres. Ne pas relayer les discours de haine, faire preuve d'esprit critique, mais on peut aussi appeler à l'aide à Lali, Melinda, Yousra, Meli, Valentino, Kinaï, Luna et Rudy vont interviewer un défenseur des droits, David Rolly.
Bonjour David Rolly. Vous êtes le chef du pôle régional Occitanie des défenseurs des droits. Nous sommes les élèves de 4e 8 du collège Marcel Aymard de Millau. Nous allons vous poser quelques questions sur votre rôle de défenseur des droits. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Avec plaisir. D'abord, merci pour votre invitation et de donner la parole aux défenseurs des droits que je représente. Donc moi, je m'appelle David Roy, vous l'avez dit, je travaille pour le défenseur des droits. Je suis basé à Toulouse et en fait je suis responsable de tout ce que fait le défenseur des droits en Occitanie, sur toute la région Occitanie. Voilà, le défenseur des droits, on pourrait y revenir à travers vos questions. C'est surtout une autorité administrative indépendante dont le rôle est de défendre les droits des personnes dans les domaines où on est compétent.
Dans quelle situation le défenseur des droits peut-il être saisi ?
Alors, je vous disais qu'on peut défendre les droits des personnes dans les domaines où nous sommes compétents. Alors quand on entend défenseur des droits, on peut se dire, ah bah oui, voilà, le défenseur des droits, il est compétent pour tous les droits. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a des domaines dans lesquels on est compétent et d'autres pas. Donc on est compétent dès que les droits des usagers des services publics sont en cause. C'est très très large, hein, par exemple, je ne sais pas si vous avez affaire à la caisse d'allocation familiale ou à France Travail, ou à l'école, à l'éducation nationale, eh bien vous êtes usager, usagère des services publics. Vous, qui nous interviewez aujourd'hui, quand vous êtes à l'école, vous êtes des usagers, des usagères du service public, qui est l'éducation nationale, si vous êtes en tout cas dans des établissements publics. Ensuite, on est compétent pour tout ce qui relève des droits de l'enfant, donc c'est les droits de tous les mineurs, et puis même parfois jusqu'à 21 ans, selon la situation. On est compétent également pour la lutte contre les discriminations, ce qui comprend le harcèlement discriminatoire, et je crois qu'on va en parler un petit peu pendant cette émission. Et puis nous sommes compétents également pour tout ce qui relève de la déontologie des forces de l'ordre et de sécurité, et la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Et alors concrètement, dans quelle situation le défenseur des droits peut être saisi? Une personne qui nous écoute pense que ses droits n'ont pas été respectés par une administration, par un employeur dans les domaines que je viens de citer, ou si des jeunes, des enfants, vous pensez que vos droits n'ont pas été respectés en tant que mineur, en tant qu'enfant, en tant que jeune, eh bien vous pouvez saisir le défenseur des droits, même en étant enfant, vous pouvez tout à fait le faire, vous avez besoin de l'autorisation de personne pour saisir le défenseur des droits, il suffit de regarder sur notre site internet, dans chaque département on peut trouver des délégués du défenseur des droits qui tiennent des permanences, et on peut les contacter facilement, soit en remplissant un formulaire sur Internet, comme ça les délégués reçoivent un mail et vous contactent après, soit en prenant rendez-vous avec ces délégués. Bien sûr, c'est gratuit, on a un service public, c'est tout à fait gratuit, confidentiel. Donc, les personnes qui auraient besoin d'aide pour défendre leurs droits peuvent saisir nos délégués en toute confiance. On a deux délégués dans l'Aveyron, par exemple, à Millau et à Rodez.
Comment peut-on savoir si on a subi une discrimination ?
Alors, une discrimination, dans la tête, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et moi, je vais vous répondre ce que c'est qu'une discrimination au niveau du droit. D'abord, c'est d'avoir été traité défavorablement. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, des jeunes qui veulent aller en boîte de nuit. Certaines personnes rentrent dans la boîte de nuit et d'autres pas, elles sont refusées à l'entrée. Dans ce cas-là, ces personnes-là, elles subissent un traitement défavorable. Ça suffit pas pour dire qu'il y a une discrimination. Là, pour l'instant, il y en a qui rentrent et d'autres pas. Pour qu'il y ait discrimination, il faut que les personnes qui se voient refuser l'entrée, eh bien, il faut que ce refus, il soit basé sur une raison qui est interdite par la loi. Par exemple, refus d'entrée en raison de la couleur de votre peau. Refus d'entrée en raison de votre apparence physique. Refus d'entrée pour votre orientation sexuelle, ou parce que vous êtes un homme, ou parce que vous êtes une femme, ou parce que vous êtes en situation de handicap, tout ça, ce sont les critères de discrimination. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de traiter moins bien des personnes pour ces raisons-là. On doit les traiter à égalité avec les autres. Après, si l'entrée dans la boîte de nuit est refusée parce que la personne, par exemple, a bu trop d'alcool, qui est dans un état d'ébriété, là, c'est une autre raison qui peut être valable. Et pour le coup, il n'y a pas forcément de discrimination. Et la dernière chose qui fait que c'est une discrimination, c'est le domaine dans lequel ça se produit. Donc là, j'ai cité l'accès à un service, par exemple, parce qu'aller dans une boîte de nuit, c'est accéder à un service d'un point de vue juridique. Mais très souvent, c'est aussi dans le domaine de l'emploi. Donc on peut être discriminé, par exemple, quand on recherche un emploi, puis un employeur qui dit « Ah ben non, ce métier, c'est pas pour une femme », ou alors « Ah ben non, c'est pas pour un homme », ou alors « Ben non, moi, je ne veux que des Français ou des Françaises ». Donc tout ça, c'est illégal, c'est interdit par la loi, ce sont des discriminations. En cours de carrière aussi, des personnes qui progressent, donc moins bien. Enfin voilà, il y a toute une série de discriminations. Je crois qu'on y reviendra pas mal sur le milieu scolaire aussi, puis sur le harcèlement, qui est un type de discrimination un peu particulier. Et puis alors, si on a un doute, hein, parce que c'est pas facile de savoir, pour revenir à votre question, savoir si on a subi une discrimination, ça n'est pas facile. Il y a un moyen très simple, c'est le 3928, c'est une plateforme du défenseur des droits. Vous appelez le 3928 et là, vous allez tomber sur des personnes avec qui vous pouvez discuter gratuitement, confidentiellement, qui vont vous dire si ou non c'est une discrimination. Et on peut chatter avec ces mêmes personnes sur antidiscrimination.fr en direct. Et là, vous y verrez plus clair si jamais vous avez un doute. Faut pas hésiter. Si vous êtes victime ou témoin d'une discrimination.
Merci. Comment réagissez-vous en cas de harcèlement discriminatoire basé par exemple sur la couleur de la peau ou l'orientation sexuelle de la victime ?
Alors, ça dépend dans quel domaine le harcèlement discriminatoire se produit, mais alors si je prends, on va prendre l'exemple de l'école peut-être, puisque vous êtes peut-être en âge d'être plus concerné par ce type de harcèlement-là, parce que ça peut se produire aussi dans le domaine de l'emploi, au travail. Hein. Mais en tout cas, à l'école, on va réagir. Si par exemple, un élève ou une élève s'estime victime de harcèlement et saisit un délégué ou une déléguée du défenseur des droits, par exemple à Millau ou à Rodez, le ou la déléguée va s'adresser directement à l'établissement scolaire pour savoir si l'établissement scolaire a bien fait le nécessaire pour faire en sorte de protéger la personne, mettre en place des dispositifs qui évitent le harcèlement, et puis réagir quand il y a du harcèlement pour protéger la personne harcelée, éventuellement sanctionner la personne qui harcèle, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le harcèlement s'arrête et pour protéger la victime de harcèlement. Parfois même éloigner le harceleur, enfin bon, voilà, on va revenir après, hein, mais il y a tout un tas de conséquences qu'il peut y avoir. Donc premier niveau, nous on va intervenir comme ça, en règlement amiable, on va demander à l'établissement de respecter, s'ils ont bien respecté leurs obligations. Éventuellement, on peut monter sur la hiérarchie, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie ou bien le directeur académique, donc les responsables de l'éducation nationale qui sont en charge de ces questions-là. Puis on peut aussi transmettre au siège, ou alors là, au siège du défenseur de droit à Paris. On a des juristes qui peuvent mener des enquêtes pour aller plus loin sur ces questions de harcèlement. J'en parlerai peut-être tout à l'heure sur une situation de cyberharcèlement pour donner un exemple. Voilà pour cette question.
Merci pour cette réponse.
Que faites-vous après qu'on vous ait saisi pour un cas de harcèlement discriminatoire ? Quelle est la procédure ?
Alors du coup, j'ai déjà commencé à répondre pas mal à cette question-là sur ce qu'on peut faire. Il faut dire quand même que le défenseur des droits n'a pas le pouvoir d'obliger, par exemple, un établissement scolaire à remplir ses obligations. On a juste le pouvoir de leur demander des explications, le pouvoir de leur demander de se conformer au texte et puis éventuellement de publier des décisions si ça n'est pas fait, ou bien de faire des signalements au parquet. Enfin voilà, derrière, on a pas mal de procédures possibles. Mais je dirais que la procédure, elle va surtout consister à accompagner les personnes qui se disent victimes dans une position de neutralité et demander à l'administration mise en cause, en l'occurrence l'éducation nationale, si c'est un établissement public, ou le diocèse, si c'est un établissement privé, par exemple, de respecter ses obligations, parce qu'en matière de harcèlement, il y a des obligations. Il y a un cadre juridique qui existe, hein, les responsables d'établissement ont des obligations, et les textes qui leur disent ce qu'ils doivent faire pour empêcher, sensibiliser, former les personnels, intervenir quand il y a un signalement de harcèlement qui est fait. Il y a tout un protocole qui est prévu et qui est de plus en plus appliqué, heureusement d'ailleurs. Hein, au fil des années, ça commence un petit peu, cette question du harcèlement, il y a encore beaucoup de travail, mais ça commence un petit peu à s'améliorer, on va dire, à être davantage pris en compte.
Et en cas de cyberharcèlement, que peut faire un défenseur de droit ?
Alors en cas de cyberharcèlement, on est toujours sur le domaine du harcèlement. Le harcèlement peut être discriminatoire, c'est-à-dire qu'il peut reposer sur la couleur de peau de quelqu'un, sur l'appartenance religieuse, son apparence physique, le fait qu'elle est en situation de handicap. Et parfois, c'est pas lié à de la discrimination, mais ça va porter atteinte aux droits de l'enfant. Donc on peut être compétent, nous. Et puis ce sont aussi les droits des usagers des services publics. Là, on a un peu tous nos droits qui sont là. Et on va agir un peu de la même façon que ce que j'ai indiqué juste avant. Alors peut-être ce qui est intéressant avec le cyberharcèlement, c'est que il arrive par exemple que des élèves soient harcelés dans un établissement scolaire et que l'établissement estime que toute la partie cyberharcèlement, donc qui se fait via les téléphones portables principalement, plus que les ordinateurs aujourd'hui, ou par téléphone directement. Bon, le cyberharcèlement, en fait, parfois les établissements scolaires estiment que c'est en dehors de l'école, en dehors du collège, en dehors d'un lycée, et que ça ne les concerne pas. Alors de moins en moins, parce que en fait, c'est pas du tout ce que prévoit la loi. C'est-à-dire que le harcèlement, il peut très bien se produire dans l'école et se continuer via les téléphones, sur les réseaux sociaux. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc les établissements scolaires doivent tout à fait prendre en compte cette question-là du cyberharcèlement. Après, on peut orienter aussi les victimes de cyberharcèlement qui ont la possibilité de, en plus de notre intervention, parfois de porter plainte, parce qu'on a des situations de cyberharcèlement très graves qui peuvent conduire à mettre vraiment, vraiment en difficulté, porter atteinte à la santé des élèves harcelés. Ça a pu conduire à des tentatives de suicide, d'ailleurs, dans ce domaine. Mais bon, je poursuivrai peut-être tout à l'heure sur ce sujet, en tout cas.
Avez-vous déjà eu affaire à un cas de cyberharcèlement ?
Oui, je vais donner un exemple. Alors, il y en a plusieurs, alors que je n'ai pas traité moi directement, mais que le défenseur de droit a traité. C'est une affaire où on avait été saisi par les parents d'une jeune fille qui était âgée de 15 ans au moment des faits. L'affaire remonte à quelques années quand même. Hein. Et c'est une jeune fille qui avait été harcelée dans un établissement scolaire, voilà, une collégienne. Et l'établissement avait été saisi. Cette jeune fille, elle, subissant ce harcèlement, est allée de plus en plus mal. Et puis, elle est allée jusqu'à faire des tentatives de suicide. Elle a été hospitalisée. Elle a refait une tentative de suicide après son hospitalisation. Elle a ensuite réintégré son collège, mais les harceleurs, deux d'entre eux étaient encore dans le collège à ce moment-là. Voilà, nous on a été saisis de cette situation très très difficile, hein, très dure, parce que cette jeune fille, elle a eu vraiment sa santé fortement atteinte. Hein, elle n'a pas pu retourner à l'école pendant un long moment. Enfin, au collège, hein, ça a été très compliqué pour elle, très violent le harcèlement qu'elle a subi. Et dans cette situation-là, alors il y a plein d'autres situations où les établissements scolaires font parfaitement leur travail, hein, aussi bien que possible, et puis souvent, bon, leur volonté, c'est de bien faire. Mais là, on était dans une situation où l'établissement n'avait pas pris suffisamment au sérieux cette situation de cyberharcèlement. Il n'y avait pas eu de sanctions disciplinaires envers les harceleurs. Il n'y avait pas eu de signalement au procureur de la République, parce que les faits étaient graves. Et dans ce cas-là, les fonctionnaires doivent signaler au procureur de la République pour qu'il y ait d'éventuelles poursuites. La situation, bon, il y avait toute une série de manquements qui nous a conduit à écrire et publier ce qu'on appelle nous une décision. Alors, c'est une décision, on ne dit pas le nom de la jeune fille concernée, on ne dit pas le nom de l'établissement, mais en tout cas, c'est une décision qu'on a publiée. On peut retrouver sur notre site internet un grand nombre de décisions qui sont publiées, qui permettent de faire connaître un peu quel est le droit qui s'applique, est-ce que les établissements scolaires doivent faire ou pas. Et là, en l'occurrence, on a demandé à ce que cette décision elle soit diffusée à tous les chefs d'établissement, enfin, très largement au sein de l'éducation nationale. Voilà, alors elle date un peu, on l'a publiée en 2020, et donc, à l'époque, en matière de harcèlement, la problématique était encore moins bien prise en compte qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire, nous, en matière de cyberharcèlement, ce qu'on a pu voir.
Merci pour votre réponse. En général, en Occitanie, combien de personnes saisissent les défenseurs des droits tous les ans ? Ce nombre a-t-il augmenté ou diminué ces dernières années ?
Alors, on est saisi par environ 12 000 personnes en Occitanie chaque année. C'est un nombre qui est en augmentation constante ces dernières années. Alors, je précise que c'est pas du tout uniquement sur des situations de harcèlement, de cyberharcèlement. C'est beaucoup de droits des usagers des services publics. Et ça a notamment beaucoup augmenté parce que les personnes étrangères qui vivent en France, avec le droit d'y vivre, ont de plus en plus de difficultés avec certaines préfectures, notamment pour renouveler les titres de séjour. Et c'est en grande partie l'augmentation des saisines qu'on a pu avoir s'explique parce que dans une partie importante des préfectures, les droits ne sont pas respectés, et pas toujours en tout cas, et donc les étrangers nous saisissent parce qu'ils ont des difficultés pour renouveler leur titre de séjour, par exemple. C'est aussi des personnes qui ont des problèmes en matière de retraite ou d'allocation familiale. Ça peut être très très large, ou de droit routier. Voilà, on est saisi par beaucoup beaucoup de situations au-delà des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations.
D'après votre expérience des défenseurs des droits, quelle est l'ampleur du phénomène du harcèlement discriminatoire en Occitanie et pas que ?
Alors, je vous avoue que j'aurais du mal à le quantifier parce que nous, on est saisi par quelques personnes sur le harcèlement. On a plusieurs dizaines de saisines par an, mais en fait, ça représente pas du tout l'ampleur du phénomène de harcèlement discriminatoire. Là, je vous avoue que j'ai pas les chiffres au moment où je vous parle sur le nombre de situations de harcèlement discriminatoire qui sont enregistrées. Je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, des rectorats, on doit avoir des chiffres à ce sujet. Ce sont des éléments que vous pouvez retrouver, je pense, auprès des rectorats.
Merci. En ce moment, qui concerne votre quotidien au travail, êtes-vous tenu par le secret professionnel ? Si oui, pourquoi ?
Bah oui, effectivement, que ce soit les délégués d'ailleurs qui tiennent les permanences que j'ai citées tout à l'heure, par exemple à Millau-et-Rodez, mais dans beaucoup d'autres villes aussi. Moi, je suis aussi en tant qu'agent du défenseur des droits, donc moi je suis salarié, hein, tenu au secret professionnel. Alors pourquoi ? Bah, déjà, la première des raisons, c'est que les personnes qui viennent nous voir, elles n'ont pas envie que leur histoire ou leurs problèmes soient étalés sur la place publique. Hein. Donc moi, il faut que je sois très discret, je ne vais en parler à personne, sauf évidemment avec l'accord de la personne qui nous saisit. Bon, bah, si j'ai besoin d'aller parler avec une administration, parce qu'il y a une difficulté justement avec cette administration pour essayer d'arranger la situation, là, je vais pouvoir en parler. Mais sinon, le secret professionnel, c'est la discrétion qu'on garantit aux personnes qui nous saisissent, la confidentialité. qui fait que je ne peux pas, moi, je ne vais pas aller raconter tous les litiges dont je suis saisi, dont j'ai connaissance, hein, qui sont très nombreux. Et puis aussi parce que quand on essaie d'arranger un problème, un litige entre une personne et une administration, par exemple, ou une personne et son employeur, en fait, on procède à un règlement amiable. On propose un règlement amiable, on propose aux deux parties de trouver une solution. Et le moment de ce règlement amiable, c'est un moment en fait où on propose une confidentialité, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que les éléments qui sont échangés, on ne va pas forcément pouvoir s'en servir après pour communiquer ou aller au contentieux devant un tribunal. Ça permet que le règlement amiable puisse se faire avec davantage de confiance. Donc voilà, le secret professionnel, bon, moi je dirais qu'avant tout, c'est pour protéger les personnes qui nous saisissent et leur vie privée notamment.
Merci. À quoi ressemble une de vos journées ?
De temps devant l'ordinateur, ou bien me déplacer partout en Occitanie pour aller faire de la sensibilisation, de la formation, de l'information sur tous les droits qui nous concernent, aux défenseurs des droits, puis expliquer ce que fait le défenseur des droits, à quoi on peut servir, etc. Pas mal de temps au téléphone et à l'ordinateur aussi, alors justement pour préparer tous ces déplacements, ces interventions, mais aussi parce que en Occitanie, il y a 67 délégués bénévoles qui interviennent dans plus de 130 lieux de permanence, et que ces délégués qui font un travail extraordinaire, ils nous sollicitent parfois. Voilà, moi je travaille pour la région d'Occitanie, on reçoit 800 demandes des délégués par an, parce qu'ils ont des cas complexes, sur lesquels c'est important qu'on échange, qu'on leur donne un avis, un éclairage, des conseils sur la manière de traiter les situations. Donc ça c'est aussi un moment important de mon quotidien dans le travail, et puis voilà pour l'essentiel de ce que sont mes journées de travail.
D'accord, merci.
Où se trouvent les défenseurs de droit en Occitanie ?
Alors, le pôle régional Occitanie est basé à Toulouse. Et puis ensuite, j'évoquais tout à l'heure les plus de 130 lieux de permanence qu'on a dans toute l'Occitanie. Donc, on est présent dans chaque département. Deux délégués, Jacques Cazotte et Marie-José Ferrez dans l'Aveyron, à Millau et Rodez. Mais on a des délégués, alors si je prends l'exemple du département de la Haute-Garonne, on a plusieurs dizaines de lieux de permanence avec plus de 10 délégués, 13 délégués de mémoire en Haute-Garonne. Donc c'est très variable selon le département et on va être présent, alors ça peut être dans une préfecture, dans une maison France Service, dans un centre communal d'action sociale, dans une maison de la justice et du droit, dans un centre social, dans un lieu tenu par une association. Donc voilà, on est vraiment dans des lieux qui peuvent être très très variés. En tout cas, toujours accessible au public et on peut nous retrouver facilement sur le site internet Défenseur des droits. Vous tapez Défenseur des droits, trouvez un délégué. Et là, vous allez avoir une carte de France, vous cliquez sur votre département et vous trouvez tous nos lieux de permanence.
Comment peut-on saisir un défenseur des droits ?
Alors justement, par le même site internet, vous pouvez comme ça prendre rendez-vous avec un ou une délégué ou remplir un formulaire qui va générer un mail vers le délégué qui va vous répondre. Mais vous pouvez aussi nous saisir sur le site internet, vous trouverez toutes les coordonnées, nous saisir par téléphone ou bien par courrier, un courrier gratuit, il n'y a pas besoin de mettre de timbre, il n'y a pas besoin d'affranchir le courrier, qui là, pour le coup, passera par le siège et puis sera traité soit à Paris, par les collègues du siège à Paris, soit qui sera redescendu, renvoyé en tout cas aux délégués sur le territoire à proximité de la personne, de là où la personne qui nous a saisis réside. Voilà comment
merci David
Rouy,
c'est la fin de cette interview. Vous êtes chef du pôle régional des défenseurs des droits en Occitanie. On peut trouver plus d'informations sur les défenseurs des droits et leur mission sur le site défenseursdesdroits.fr.
C'est moi qui vous remercie pour cette interview et d'avoir consacré du temps sur le sujet du défenseur des droits en espérant que ça permette aux auditeurs et aux auditrices de mieux nous connaître afin qu'on leur soit utile. Merci encore à vous.
Au revoir.
Nous arrivons à la fin de cette émission et pour conclure, nous aimerons dire ce que l'on retient de ce projet. Il est plus facile d'être méchant sur Internet parce qu'avec un pseudo et l'anonymat, certaines personnes ont l'impression qu'on ne peut pas les reconnaître. Sur les réseaux sociaux, on ne voit pas la personne en face, donc certains oublient qu'il y a un vrai être humain derrière l'écran. Cela peut encourager à insulter, se moquer ou envoyer des messages blessants, alors que dans la vie réelle, ils n'oseraient pas le faire. Mais il faut se rappeler que tout ce qu'on met sur Internet n'est plus vraiment privé. Les messages, photos ou commentaires peuvent être gardés, partagés et utilisés comme preuve. La loi protège les victimes et peut punir ceux qui cyberharcèlent. Internet ne supprime pas les responsabilités. On reste responsable de ce que l'on fait et dit en ligne. Pour l'accompagnement et la réalisation de ce projet, nous remercions Madame Barthélémy, Madame Favre du Collège Marcel Aymard, Sophia de Radio Larzac et la DILCRA, délégation interministérielle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Merci et bravo aux élèves de 4e 8 pour cette émission, réalisée grâce au soutien de la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dans le cadre du projet « Mais pourquoi tant de haine ?» mené par Radio Larzac. Merci encore à David Rohi, chef du pôle régional Occitanie du Défenseur des droits, pour sa disponibilité à répondre aux questions des élèves. Merci aux profs Audrey Barthélémy et Martine Fabre pour l'accompagnement. Vous pouvez réécouter cette émission sur radiolarzac.org où vous trouverez également l'émission réalisée par les élèves de 4e 2 du Collège Marcel Aymard dans le cadre du même projet.